Comme à tous les vendredis, on va rejoindre notre ami Arpen Basouk de The Athletic qui est avec nous en l'aéroport en plus. Arpen, comment vas-tu?
Ça va bien les gars. Hâte de revenir à la maison, mais c'est un voyage pour le Canadien quand même.
Ah ouais,
c'est
cool.
Arpen, c'est incroyable. Puis là, tu vois tout ça. Le Canadien qui est 11-2-1, c'est 14 derniers matchs. Comment t'expliques ce revirement de situation d'une des équipes les plus hot de la Ligue en ce moment?
Expliquer le revirement de situation, c'est ça qui est difficile à faire, parce que dans le fond, tu sais, après chaque victoire, plus long que ça continue, tu essaies de trouver des raisons, des façons que ça va terminer, à quel point c'est une ballonne qui va popper à un moment donné, puis ça, moi, c'est difficile à trouver. J'ai essayé de le faire, là, puis la seule chose, c'est que, tu sais, leur stats avancés, leurs chiffres de possession sont pas semblable à leur nombre de victoires récemment, mais c'est vraiment minime comme raison. Là. C'est pas comme si leur chiffre de position sont mauvais. Ils sont juste pas super à un point que tu peux dire une équipe va gagner 11 matchs sur 14. Puis, et la plupart de ces matchs sur la route et la plupart de ces matchs contre des puissances de la Ligue. Ouais. Alors, la chose qui est intéressante là-dedans, c'est que c'est pas une chose, c'est pas une vague d'un ou quelques joueurs qui mènent ça. C'est pas, leurs gardiens sont bons, ils font la job, mais ils sont pas parmi les meilleurs gardiens de la Ligue. T'sais, ils ont une bonne attaque, il n'y a pas un seul joueur qui est en train de brûler la Ligue, et c'est sur ce joueur-là qui se fie à chaque match. C'est pas le cas. C'est différent à chaque match. Puis surtout, c'est une gestion de rondelle, une gestion de match, une compréhension de comment gérer un match dans la Ligue nationale. Quand utiliser tes habiletés et quand domper une rondelle puis juste aller sur l'échec avant puis jouer bien défensivement, il comprend toutes ces choses-là, puis avec chaque victoire, il comprend plus. Alors, c'est ça qui est encourageant, c'est que, tu sais, on parle beaucoup de maturité, mais on est en train de voir la maturité d'une équipe, mais d'habitude, ça prend des mois minimum, mais des fois des années à acquérir cette maturité-là. Puis nous, au cours de 2 mois, même pas, peut-être 6 semaines, on voit une équipe qui est allée d'une équipe extrêmement immature à une équipe extrêmement mature. Et c'est quelque chose de rare.
Ouais, c'est vrai. Puis l'effet domino et le fait que ça vient pas d'un joueur, quand on regarde, Georges parlait des 14 derniers matchs, c'est plus une petite séquence, ça commence à être une longue stretch, tu l'as dit, contre des adversaires. Et on va parler d'une de ses facettes, Arpen. Encore le match d'hier, Jakub Dobesch. Je veux dire, 4-0 contre des adversaires de fou, là, quand on regarde ses adversaires. Tous les matchs sur la route comme ça, c'est un début de carrière incroyable pour Dobesch.
Tout à fait. Puis pour moi, ce qui est encore plus impressionnant dans son cas, c'est que tu te rappelles le voyage après Noël, quand Dobesch a été rappelé, puis il avait gagné en Floride, ce qui était bien normal qu'il parte ce match-là, parce qu'il jouait à Tampa le lendemain.
Ouais.
Mais le match à Chicago, je m'attendais vraiment que Dobesch allait goaler ce match-là. Mais ils ont mis Montembeau dans le filet. Pour moi, ça disait que le Canadien voyait comme le match à Chicago comme étant le plus probable à gagner. Puis le match le lendemain à Colorado, anyway, pas probablement, on va perdre ce match-là anyway. Alors, on va aller avec notre partant à Chicago, on va prendre ces 2 points-là, puis ce qui va arriver à Colorado va arriver. Finalement, c'est l'opposé qui s'est produit, parce que Dobesch a gagné à Colorado, Montembeau l'a perdu à Chicago. Cette semaine, on a vu très semblable situation. Match à Utah, match à Dallas, c'est Montembeau qui a le départ à Utah. Je pense qu'il voulait mettre ses 2 points en banque, il voulait s'assurer d'avoir ces 2 points-là, puis ce qui va arriver à Dallas va arriver. Puis encore une fois, Dobesch est rentré à Dallas, puis il a gagné le match. Puis je ne veux pas dire que c'est lui seul qui a gagné le match, là, mais il a fait ce qu'il fallait faire. Puis une fois, il a permis aux Canadiens de trouver leur repère un peu en deuxième période, quand Dallas commençait à vraiment circuler dans leur zone un peu. Puis il a permis à ses coéquipiers d'aller chercher le but gagnant, puis terminer le match en force défensivement. Alors, c'est 2 sur 4 où je pense que le Canadien lui a donné un match qu'il trouvait peut-être un peu perdu d'avance, puis il l'a gagné anyway, ce qui est très impressionnant.
Puis là, tu sais, quand on parle de bonnes nouvelles, un des points les plus importants du revirement de situation du CH, c'est le réveil de Kirby Doc. Et on peut dire que là, c'est un réveil parce que c'est depuis plus de 10 matchs et non un match. À quel point c'est encourageant pourtant de voir que finalement, on a notre deuxième joueur de centre d'avenir?
Ben oui, c'est sûr que c'est encourageant. C'est important pour l'équipe et c'est important pour lui aussi, pour sa carrière. Puis tu vois à quel point il a de bonne humeur. Il est confiant, il sent bien dans sa peau. Puis c'est tout son trio qui va mieux. C'est comme les premiers matchs du trio de Laine, Dark et Newhook, c'était un peu difficile à regarder à 5 contre 5, mais dernièrement, ils sont capables quand même de tirer leur portion de jeu offensif puis possession en zone offensive. Tandis qu'avant, c'est surtout des présences après présence après présence en zone défensive. Alors, je pense que le réveil de Dark démontre à quel point les victoires aident un joueur à trouver son confiance et à se développer. Ce qui est bon augure pour les jeunes joueurs de cette équipe-là. Puis si la culture qu'on voit qui est en train de se bâtir maintenant, si ça perdure plus long que cette saison et qu'il y a d'autres jeunes qui vont rentrer dans cette culture-là, cette culture gagnante-là, si ça arrive, ça va seulement aider leur développement aussi. Alors, pour l'avenir du Canadien, la culture qu'on voit s'établir maintenant, ça peut vraiment commencer à porter fruit une fois que les demi-doves, Reinbacher, Mayhew, qui sait d'autres, Beck, Hage, il y a plein de jeunes talentueux qui arrivent, qui vont peut-être pouvoir s'intégrer à cette culture-là puis aider leur développement aussi.
Il y en a un autre qui a bien joué hier et je trouve qu'on le voit peut-être un petit peu plus depuis 2-3 matchs, c'est Slav, tu sais. C'est le seul qui reste à comme embarquer dans l'effet domino, là, on dirait, à travers tout ça. Est-ce que pour toi, tu es confiant de le voir se remettre en marche, de prendre les forces et de prendre confiance là-dedans?
Ben oui, je suis confiant qu'il va le faire. Est-ce qu'il va le faire là? Je suis pas certain. Tu sais, ça reste à voir s'il est capable d'avoir 4, 5, 6 matchs de suite comme ça. Ce que Martin il en parlait avant le match, tu sais, c'est voir ses pieds bouger, puis son jeu physique. Ils veulent voir sur une base constante. C'est les deux priorités qui demeurent les mêmes pour Jaroslav Slafkovský, mais c'est sûr qu'un match comme hier, c'est encourageant. Et à long terme, j'ai zéro doute qu'il va le trouver. Il y a 20 ans. Et Nick Suzuki faisait un bon point lundi. Il disait, tu sais, moi, à 20 ans, je gagnais pas beaucoup de mes batailles pour la rondelle le long des rampes. Là, j'en gagne beaucoup plus parce que j'ai l'expérience, je sais comment le faire. Lui, il est en train d'apprendre comment le faire. Et juste parce qu'il est gros et fort, ça veut pas dire que tu vas savoir comment le faire à ce niveau-là. Alors, il est en train d'apprendre. Alors, à long terme, j'ai aucun doute. Mais le défi, à court terme, c'est de le faire 5-6 matchs de suite puis voir où ça va se mener.
Arpon, dans le match d'hier, Armia, quel match! Dernièrement, là, dans cette séquence-là, il a montré à quel point c'est un atout important. Est-ce qu'il s'est mis dans une position que le Canadien devrait peut-être trouver une façon de le garder puis même de lui donner une offre de contrat?
Offre de contrat, on verra, là, mais ce que le Canadien est en train de faire, Ken Hughes, quand il a parlé à mi-saison, il était demandé sur la date limite des échanges, puis il a dit ben, nos joueurs vont nous montrer le chemin, vont nous montrer quoi faire. Alors, il ne s'est pas fermé à l'idée de vendre des joueurs, mais il ne s'est pas fermé à l'idée à garder ces joueurs-là aussi. Alors, les Canadiens seront capables de s'assurer que non seulement Armia, mais Evans, Savard, Dvorak sont toujours là à la fin de la saison parce que entre ce qu'il peut aller chercher pour ces joueurs-là, puis ce que ces joueurs-là peuvent contribuer à ce qui est en train de se bâtir avec les Canadiens, si ça continue jusqu'au 7 mars, c'est sûr que la deuxième option a beaucoup plus de valeur pour l'organisation en ce moment que d'autres choix de repêchage qui en ont déjà une tonne. Alors, en termes d'offre de contrat, je pense que ça, c'est un peu plus délicat. Il y a des planifications qui doivent être faites. Puis, une chose qu'il faut éviter à faire, c'est de tomber en amour avec tes joueurs de quatrième trio. Même s'ils jouent super bien, c'est pas quelque chose qu'une organisation doit faire parce que tu dois prioriser un peu plus haut dans l'alignement, puis tu regardes ce qui se passe avec Jake Evans, écoute, il est tombé en panne sèche en ce moment offensivement, ce qui est normal, ce qui est bien correct, il joue du bon hockey encore, mais c'est pas exactement le même serveur avec qui tous les partisans disent signe ce gars-là tout de suite maintenant. Alors, c'est ça, c'est juste d'évaluer la situation avec la tête froide à la fin de la saison. Mais en termes de date limite, si ça continue comme ça, et même pas comme ça, mais une version de ça, tu sais, si Canadiens continue d'être une équipe gagnante, ils vont forcer la main de Ken Hughes de garder ces gars-là, puis je pense qu'il serait content de le faire parce que ça serait mérité.
Et c'est drôle que tu dises ça, parce que le dernier contrat d'Armia a été signé dans ces circonstances-là. Rappelez-vous du parcours éliminatoire du Canadien de Montréal, d'Armia sur un quatrième trio. Ça lui a donné le contrat sur lequel il est aujourd'hui. Alors, c'est bien que tu dises ça, Harpin.
Et pendant 3 ans, le monde a haï,
ouais,
exact, ce contrat-là.
Exact. Là, ouais. Là, on louange pendant 3 semaines, mais c'est ça, Yoel Armia. Je veux dire, il va pas changer du tout au tout. Il en a fait une carrière comme ça, de côté. Il hiberne par séquence, puis par d'autres, ben il part. On a parlé de la séquence du Canadien en début de chronique. Tu en as parlé également. La question que tout le monde se pose depuis à peu près une semaine et demie à Montréal, puis j'en reviens même pas qu'à cette date-ci de l'année, on la pose, mais on te la pose pareil. Est-ce que le Canadien de Montréal fera les séries éliminatoires selon toi?
Ben écoute, il y a beaucoup de si là-dedans, mais ce que je vois dernièrement, puis dernièrement, je parle d'un mois, sinon deux, ou presque deux, le Canadien montre pas quelque chose qui suggère qu'ils vont se ralentir, puis la réalité dans l'Est, c'est qu'il y a plusieurs équipes comme ça.
Ouais.
Il y a Détroit qui est sur une lancée extraordinaire. Columbus, évidemment, c'est la meilleure histoire de la Ligue. Boston est en chute libre. Il y a deux. Tout le monde pensait qu'il y avait une place en série, que tout le monde luttait pour ça, mais là, à cause de Boston, il y en a deux. Alors, je pense que les chances sont réalistes, rendues là, qu'ils les font, mais ils sont loin d'être garanties parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétition pour ces deux spots-là. Puis ça va être vraiment, je pense, une course quand même assez hallucinant pendant les deux derniers mois de la saison parce que il y a beaucoup d'équipes en lice, il y a beaucoup d'équipes qui jouent bien, puis ces deux spots-là sont pas garantis pour personne. Alors chaque match dès maintenant a une importance vraiment élevée. Puis tu sais, les matchs significatifs que la direction voulait que le Canadien joue en mois de mars, bien, ils sont en train de jouer quasiment dès maintenant.
Oui, mais Appen, il faut que je te demande avant, c'est comment les journalistes, le buzz, tu sais, dans les points de presse et tout, avec le Canadien qui gagne, comment vous êtes entre vous autres, sais-tu? Y a-tu une humeur, vous vous parlez, puis c'est comme incroyable?
Ben, c'est sûr, on est comme un peu comme tout le monde. C'est devenu... Ça a changé tellement rapidement, puis ça a changé d'une façon tellement drastique, tu sais. Moi, je me rappelle, écoute, c'était le 11 novembre, le matin du 11 novembre. Le Canadien est à dernière place de la Ligue nationale. Il y avait une fiche de 4, 9 et 2. Il y avait 9 défaites en temps réglementaire le matin du 11 novembre. Depuis le 11 novembre, ils ont 9 défaites en temps réglementaire. Alors, ça démontre à quel point cette situation a changé de bord tellement rapidement. Écoute, 11 victoires en 14 matchs, c'est le même nombre de victoires qu'il y avait après 30 matchs. Alors, quand même, c'est pas normal et c'est pas habituel, puis c'est pas quelque chose que tu vois à tous les jours. Alors oui, c'est sûr que nous, on jasait avec un collègue sur le carré de presse, puis il était comme « On chiale sur quoi maintenant? » Tu sais, on a alors, il faut trouver des... mais tu sais, c'est facile d'écrire de la positive, et en fait, c'est rafraîchissant parce que l'équipe le mérite. T'sais. C'est une chose d'écrire positivement quand elle ne le mérite pas nécessairement, mais qu'il y a une séquence, une bonne séquence pendant une semaine ou deux. Mais là, tu sais, ça a l'air durable ce qu'ils font. Là. Alors, c'est comme... C'est plus facile d'écrire du positif quand tu es convaincu d'une certaine façon que ce que tu vois est vrai et c'est pas un mirage.
C'est intéressant par rapport aux collègues. J'ai le goût de compléter puis de te relancer sur une question par rapport à la relation et ce que vous ressentez par rapport aux joueurs, aux entraîneurs, t'sais, parce que eux aussi, c'est contagieux. Veux, veux pas, ils sont humains. Ils voient que c'est contagieux d'accumuler les victoires. J'imagine qu'aussi, ça fait du bien à eux et de les voir aussi, de les aborder. Au lieu d'avoir un look d'enterrement, il y a des sourires, il y a de l'énergie, il y a de l'entrain, il y a de la camaraderie.
Ben oui, c'est sûr. Écoute, l'environnement est beaucoup, beaucoup plus allégé maintenant. Moi, je trouve que Martin, quand même, il gère la situation très bien. Il a la tête froide là-dedans.
Ouais.
tout le concept de pas trop haut et pas trop bas, là, il le suit à la lettre. C'est sûr qu'il est content avec les victoires, il est fier de son équipe, de la façon qu'il joue, mais il garde ça relativement level, tu sais. Il essaie de garder ça à un niveau qui est gérable. Alors, on a vu, tu sais, le début de la saison, c'était comme les pires moments de Martin Saint-Louis comme coach du Canadien. C'était quasiment toute la ville voulait sa tête, et il trouvait qu'il n'était pas capable de coacher à ce niveau-là. Et c'était très négatif autour de lui pour la première fois depuis son embauche. Puis il a géré ça, puis il a accepté ça comme une réalité du poste qu'il a accepté. Alors là, ça, c'est l'autre côté du médaille. Puis ça arrive très, très, très rapidement, littéralement 2 mois après ce bas point. Là, il était son haut point comme coach canadien. Puis le genre, son humeur est plus ou moins semblable. C'est sûr que c'est meilleur maintenant, mais ça n'a pas changé tant que ça. Alors, je trouve qu'il est capable de garder ça quand même en perspective un peu, puis savoir que, oui, ça va super bien, oui, c'est très encourageant, mais il reste beaucoup de temps avant la fin de la saison, il reste beaucoup de matchs à jouer, puis le Canadien va pouvoir maintenir une semblance de ce qu'ils ont fait depuis le dernier mois pour rester dans la course. Alors, beaucoup de travail à faire, puis c'est un gars qui a l'air d'être très concentré de rester sur la tâche.
Harpon, Hudson qui a encore un point hier, deux questions pour toi par rapport à ça. Le Calder, est-ce que son nom est déjà inscrit dessus? Puis est-ce que tu es convaincu qu'un jour il va gagner le Norris?
Pardon, c'est en termes de Calder?
Oui, le Calder pour toi, est-ce que c'est déjà une formalité? Puis le Norris, un jour il gagne?
Bien, c'est pas une formalité. Comme je viens de dire, il reste beaucoup d'hockey à jouer. Il reste beaucoup de temps pour Macklin Celebrini à faire du chemin, pour Matt Demichkov de se mettre en feu. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais c'est sûr que Hudson Sommet, il mène la course en ce moment. Puis moi, je dirais qu'il y a comme une bonne avance dans cette course-là en ce moment. Puis si le Canadien reste dans le portrait des séries, puis s'ils font les séries, c'est sûr que ça va avoir un impact sur le vote de plein de personnes, parce que c'est un défenseur qui joue sur la première paire, qui joue 23 minutes par match, qui joue beaucoup à 5 contre 5 pour une équipe de série, comme recrue, pour moi, ça dit long. C'est l'année passée, il y avait le cas de Brock Faber contre Connor Bedard,
right,
qui est très similaire. Moi, sur mon bulletin de vote, moi, j'avais Brock Faber en première place à cause du rôle qu'il jouait sur une équipe qui était quand même compétitive. Rien pour dire que Bedard a connu une mauvaise saison recrue, loin de là. Mais en termes de rôle, en termes de contexte, de performance qu'on a vu, je trouvais que celui de Faber était plus impressionnant. Cette année, c'est similaire. C'est Faber était plus vieux que Bedard. Hudson est plus vieux que Celebrini. Mais si les Canadiens font les séries, puis le rôle qu'ils jouent en ce moment, je trouve que ça devrait compter pour beaucoup, parce que c'est une chose de faire des points sur une équipe qui perd à chaque soir, mais quand tu es sur une équipe qui fait les séries, si tu as un impact réel là-dessus, ça devrait compter pour quelque chose.
T'as nommé leur nom au passage. C'est une des belles histoires cette saison dans la LNH, en compagnie de celle du Canadien de Montréal. Pour toi, c'est quelle l'équipe la plus impressionnante cette saison? Les Blue Jackets ou le Canadien?
Honnêtement, c'est les Blue Jackets. Écoute, là, tu vas pas voir la tragédie qu'ils ont vécue saison. Non seulement un coéquipier, non seulement un ami, mais en termes plus hockey, c'est moins émotionnel et moins c'est un de leurs meilleurs joueurs en attaque. Alors, faire ce qu'ils sont en train de faire démontre un niveau de caractère qui est impressionnant. Puis je trouve les voir en série après tout ce qu'ils ont vécu, même si l'histoire du Canadien est super intéressante, c'est, je dois choisir Columbus comme étant la meilleure histoire de la Ligue en ce moment.
Ouais. S'ils peuvent continuer, imagine. T'sais, des gars comme Warinsky pour le Norris, Dean Evason pour le Jack Adams. Là, t'as perdu mon âme, tu continues de gagner.
Ouais.
Hey, Harpin, bon vol de retour. Bon week-end du Canadien de Montréal avec les deux en deux. Puis on se reparle la semaine prochaine.
Merci, Harpin.
OK, merci les gars. Salut.
Harpin Basu de The Athletic qui est avec nous. Georges, sais-tu quoi? Habituellement, on parle à Johan le vendredi à cette heure-là. Là, Johan, malheureusement, avait contretemps aujourd'hui. On ouvre les lignes au retour. Ça te tente-tu?
Oui.
On ouvre les lignes. On en a parlé hier. On a parlé beaucoup de football également. Vous avez entendu le blitz plus tôt à l'émission, puis on prendra vos prédictions pour les games plus tard en tribune. Mais là, on va faire un peu différent. C'est vendredi, on s'amuse. La dérape s'en vient. 514-790-0919. C'est qui le MVP, à votre avis? Le MVP de la saison, là. On s'est prononcé hier. Est-ce que c'est Lamar Jackson des Ravens ou c'est Josh Allen des Bills?
Puis même okay? S'il y avait quelqu'un d'autre que vous voulez nommer comme peut-être...
Saquon?
Saquon ou ton...
Joe Burrow?
Ben exactement.
Ah non, non, mais...
Donne l'amour à ton
sais,
Joe Burrow.
Merci, Josh. C'est gentil, mais là, les deux jouent un contre l'autre en fin de semaine. C'est ça la grosse game, là. C'est Ravens contre les Bills. Pour vous, est-ce que c'est un vote à Lamar ou un vote à Josh Allen? On y va avec la rafale au retour. 514-790-0919.